Bonjour, Monsieur de Blois.
Oui, bonjour, Madame Paquette.
Cette décision, bon, je le disais, ça soulève beaucoup de questions, autant pour les experts, les médecins, autant pour le grand public, et des questions vraiment qui vont dans tous les sens, autant au point de vue médical, au point de vue légal, au point de vue scientifique, et aussi, le Collège des médecins ne semble pas très, très content de cette décision-là. À savoir aussi, depuis, bon, en avril, il y a eu cette décision-là de prise, mais avant, qui prescrivait le cannabis thérapeutique? Comment ça se passait?
En fait, avant le 1er avril 2014, il y a eu une période d'environ 14 ans au Canada où le patient pouvait avoir accès à du cannabis séché pour usage thérapeutique. Mais ce n'était pas le médecin qui prescrivait.
OK.
Le médecin se limitait à faire un diagnostic.
Mm-hmm.
Et avec un diagnostic de certaines maladies qui avaient été identifiées par Santé Canada comme étant admissibles, le patient pouvait contacter Santé Canada avec son diagnostic et faire une demande d'autorisation de possession. Et ça, ça lui permettait soit de produire lui-même son propre cannabis pour usage thérapeutique ou de s'en procurer d'une source commerciale. Il y en avait juste une au Canada.
OK.
Un producteur autorisé. Et,
il y en a 20 à peu près maintenant.
Maintenant, il y en a 20, ouais. Oui. Parce que depuis le 1er avril, avant le 1er avril, les médecins qui prescrivaient le cannabis, ils revoyaient rarement leurs patients. L'accès au cannabis était continu, mais il n'y avait pas de suivi. Et ça, c'est un problème parce qu'on ne pouvait pas vérifier si c'était efficace, s'il y avait des effets secondaires, s'il y avait des ajustements de doses. Et ce que Santé Canada a décidé de faire le 1er avril, avec la nouvelle réglementation là, qui réglemente la marijuana à des fins médicales essentiellement, on ne parle pas de récréation, là.
Oui, oui.
C'est que eux, ils ne veulent plus savoir qui a quelle maladie. Là, ils disent que les médecins devraient faire le diagnostic, faire la prescription. Et ensuite, le patient doit absolument, obligatoirement s'approvisionner auprès d'un de ses 20 fournisseurs.
Mandaté par Santé Canada ou accrédité, mettons.
Et il ne peut plus faire pousser son propre cannabis. Ça, c'est un irritant, évidemment, okay, pour les utilisateurs, parce que ça coûte plus cher.
Mm-hmm.
Mais ça amène un standard de qualité dans les produits qui sont utilisés. Donc, le cannabis séché, maintenant, est d'une qualité... En fait, on vise une qualité constante avec une meilleure connaissance de ses constituants.
Mm-hmm. À qui on prescrit du cannabis à fin thérapeutique?
Les patients qui ont des douleurs chroniques, souvent des douleurs d'origine nerveuse, les nerfs sont affectés, et pour lesquels les autres médicaments sont inefficaces. Donc, il y a beaucoup de gens mm-hmm. pour qui les opiacés, par exemple, là, sont inefficaces. Ces gens-là, ils ont des douleurs réfractaires, c'est bon pour eux autres, ils sont autorisés. Les gens qui ont des douleurs, des problèmes neuromoteurs, comme la sclérose en plaques,
ouais,
ça cause des spasmes. Les gens qui souffrent de nausées, vomissements, suite à la chimiothérapie, ou qui perdent du poids à cause de leur ou perdent l'appétit à cause de cancer ou de chimiothérapie, ces gens-là peuvent bénéficier, les données suggèrent qu'ils peuvent bénéficier du cannabis séché. Le problème avec l'ancienne réglementation, c'est que on contrôlait mal la qualité de ce qui était
produit,
utilisé.
Mm-hmm.
Ouais, c'est
ouais,
ça. Ouais. On voyait pas les patients, donc on pouvait pas accumuler des données. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'études très petites qui tendent dans la même direction en disant ben ça semble efficace, mais on a besoin de données plus solides pour dire bon ben c'est telle dose de THC, par exemple.
Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Denis de Blois, à savoir que le Collège des médecins est du Québec semblent plus ou moins favorables à cette décision-là parce que eux, ce qu'ils tentent de soutenir, c'est que ce qu'ils semblent soutenir plutôt, c'est que c'est pas vraiment reconnu le cannabis dans le traitement de différentes pathologies chez les gens.
Tout à fait. Non, ils ont raison. Cannabis séché, c'est pas un médicament au Canada. C'est, par contre, l'accès au cannabis séché pour les patients qui souffrent de ces maladies réfractaires est garanti par la Charte des droits et libertés. Mm-hmm. Depuis l'an 2000, il y a eu une décision de la Cour en Ontario basée sur l'article 7 qui garantit à tout citoyen l'accès à la sécurité. Pour ces patients qui n'ont pas d'option thérapeutique, le cannabis, on ne peut pas raisonnablement leur priver de l'accès au cannabis parce qu'il y a des, encore une fois, il y a des indices comme quoi ça pourrait être efficace. Donc là, les médecins sont vraiment pas contents parce qu'ils ont la responsabilité de prescrire quelque chose qui n'est pas vraiment un médicament.
Et des fois, ils ne le connaissent pas aussi, j'imagine, tant que ça.
Exactement. Oh. Non, et c'est ça. Ils ne connaissent pas parce que ce n'est pas un médicament. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas informés. Donc, le Collège des médecins a recommandé de prescrire le cannabis séché dans le cadre d'un projet de recherche.
Mm-hmm, ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que le médecin a épuisé les options thérapeutiques conventionnelles, il peut proposer à son patient l'accès au cannabis séché. Mais à ce moment-là, le patient doit signer un formulaire de consentement, comme quoi son nom, sa condition clinique, les doses vont être colligées dans une base de données.
Mm-hmm.
Commune, qui va pouvoir être utilisée pour faire un suivi de ces patients-là à la grandeur de la province, mais aussi du Canada.
Mm-hmm.
Et ce qu'on espère en faisant ça, c'est éventuellement en arriver avec suffisamment de données solides pour dire oui, chez les patients souffrant de sclérose en plaques, par exemple, le cannabis séché est efficace et c'est ce type de cannabis qui fonctionne.
Oui, parce que parmi les 20 fournisseurs accrédités par Santé Canada, il y a, bon, ils cultivent ces gens-là plusieurs types, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y a à peu près 30 types de cannabis.
Oui, en fait, si on va sur le site web d'un de ces fournisseurs-là, on peut voir une douzaine de souches différentes.
Ouais.
Et les pourcentages de produits actifs varient, mais ils sont connus. Donc, c'est une des beautés de la nouvelle réglementation, c'est que ça force les producteurs à faire des analyses chimiques et de garantir, par exemple, saviez-vous qu'il y a environ 70 cannabinoïdes dans la plante qu'on peut fumer ou absorber?
Okay.
Il y en a deux majeurs qui semblent pas avoir les mêmes effets. Il y en a qui semblent être plus anti-inflammatoires, analgésiques. Il y en a d'autres, c'est plus un effet relaxant musculaire. Donc, les pourcentages de l'un et de l'autre varient d'une plante à l'autre. Alors, le médecin, à ce jour-là, on n'a pas de données suffisantes pour dire ben, c'est tel profil, tel pourcentage. Mais ça va venir.
Les médecins seront-ils formés afin de mieux prescrire le cannabis à des fins thérapeutiques? Parce que le patient arrive, par exemple, avec la sclérose en plaques. OK, parmi les 30 types, qu'est-ce que je peux bien lui prescrire? Ça peut devenir un casse-tête.
Oui, ça peut devenir un problème. Et là, c'est là que l'accumulation graduelle des données sur les patients va être utile. Donc, au début, c'est sûr que ça va faire un peu par tâtonnement. Les médecins qui vont prescrire le cannabis, moi, je peux imaginer les médecins spécialistes dans les centres qui traitent des cas graves, par exemple de sclérose en plaques ou de douleurs chroniques. Et il y a certains de ces patients-là là, où on a épuisé toutes les options thérapeutiques. Non. Là, ces patients-là ces médecins sont vraiment à l'extrême limite de la recherche et eux s'informent. Okay? Donc, eux, ils s'informent puis ils font progresser les connaissances en testant des combinaisons de cannabis. Il faut dire qu'il y a deux médicaments approuvés au Canada avec du cannabis synthétique. Okay. Par voie administrable, par voie orale. Donc ça, c'est une option thérapeutique que les médecins peuvent considérer.
Et j'imagine qu'on ira également par essai et erreur en ce qui a trait aux doses, par exemple, recommandées, à la fréquence également.
Oui, il y a déjà un petit peu de données dans la littérature, mais encore une fois, c'est trop fragmentaire. Donc, de ce côté-là, et ça va se faire par des médecins qui s'intéressent à la chose, donc qui sont prêts à s'investir dans le suivi des patients, l'évaluation des meilleures options de cannabis séché, les pourcentages les plus qui ont le plus de chances de fonctionner. Donc, là, on peut imaginer, en plus des spécialistes auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, on peut imaginer des médecins qui s'informent tout particulièrement, qui acquièrent une expertise dans si vous voulez, dans le domaine du cannabis séché. Et là, on peut imaginer des cliniques, comme il y en a une qui est ouvert à Montréal
Oui, pas
il y a quelques...
loin, justement, ici de la station sur Amherst Santé Cannabis. Et lors de
Oui.
notre dernière conversation, Denis Deblois, vous me disiez, ben, je pense que c'est une bonne idée.
Pour la simple raison que ça va permettre aux médecins qui ne veulent pas se commettre à prescrire l'accès à une substance séchée qui est quand même psychoactive, donc il y a toutes sortes de problèmes, là. Il y a des risques qui sont associés à ça.
Ouais.
Et peut-être qu'ils veulent s'en référer à des médecins pour qui la gestion du cannabis séché comme option thérapeutique est plus familière. Donc,
Ouais.
on peut imaginer ça, OK? Mais là, il y a un problème pour ces médecins-là. Ils vont avoir affaire à deux types de patients. D'une part, il y a le patient qui peut rentrer dans leur cabinet et parler de sa maladie. Et toutes les options thérapeutiques sont sur la table, dont le cannabis séché, mais c'est une des options. Et ça va être difficile pour eux de distinguer ce patient-là de l'autre patient pour qui, en rentrant au cabinet du médecin, c'est pour lui une étape vers l'accès au cannabis.
Ouais, ben oui.
Il rentre en parlant de la médication, de l'accès au cannabis séché. Il ne veut pas entendre parler des options
Autre,
alternatives.
ouais.
Et ça va être un problème pour eux de gérer, de filtrer. Et on espère que ouais,
Ça fait partie des risques, Denis Deblois. Est-ce qu'il y en a d'autres risques? Je reviens un petit peu à, bon, cette interpellation-là que j'ai par rapport à l'accoutumance, ça crée une dépendance. Est-ce que ça peut devenir un risque? Je veux dire, j'imagine que c'est pas pire qu'aux opiacés, par exemple, mais ça demeure quand même là.
Non. C'est le risque de dépendance, et il est réel. On estime environ 8% des utilisateurs de cannabis développent un comportement de dépendance, là, c'est-à-dire que ça influence leur vie quotidienne, la recherche et la consommation ont un impact sur leur vie, le fonctionnement quotidien de leur vie, et ils sont prêts à arrêter. Donc ça existe. Les risques sont multiples. C'est une substance
Ouais.
psychoactive. Donc, il peut y avoir des désordres cognitifs, moteurs. Ça peut causer des étourdissements. Donc, certains des désordres cardiovasculaires, le cœur qui débat, ça peut causer des attaques de panique chez certaines personnes qui ne sont pas habituées. C'est pour ça qu'on recommande aux médecins de commencer avec des doses très faibles et graduellement augmenter. Mais un des problèmes les plus graves, c'est le risque de développer des psychoses. Chez certaines populations, il y a plusieurs études qui montrent que l'accès au cannabis chez des adolescents, donc ou des enfants, certainement les adolescents, augmente le risque de développer des épisodes de schizophrénie et augmente la gravité des épisodes. Si les gens ont des prédispositions, c'est pas tout le monde là, qui est exposé à ça, mais il y a un risque de développer chez les gens qui sont vulnérables ce genre de comportement ou de maladie. Par ailleurs, il n'y a personne qui est mort d'une overdose de cannabis, contrairement aux opiacés.
J'imagine aussi que pour le praticien, pour le spécialiste, l'expert en santé, c'est difficile d'évaluer ces risques-là, de se dire est-ce que la personne qui est devant moi est à risque de développer une psychose, quoi que ce soit. C'est encore un peu de l'essai et erreur là, dans ce cas-là.
Bien, vous savez, la recherche, c'est comme ça que ça avance.
Ouais.
OK? Mais les essais se font dans un cadre où on cherche à contrôler la qualité de ce qu'on administre. Donc, c'est à peu près toujours la même chose où on sait qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on administre. Ça, c'est important. Donc, la nouvelle réglementation répond à cette condition-là. La deuxième condition, c'est le suivi. Pour vérifier si le bénéfice est plus important que le risque. Et ça, c'est le médecin qui va faire ce suivi-là. Donc, la réglementation actuelle, la nouvelle, répond aussi à ce besoin-là.
Oui. Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment des pour et des contre, et ça sera à suivre de près dans les prochains mois, prochaines années également. Denis Deblois, vous êtes professeur titulaire à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, également co-directeur du groupe de recherche universitaire sur le médicament. Et vous faites partie de ces gens qui organisent des conférences, des discussions avec des professionnels de la santé pour mettre de la lumière sur cette question-là. Merci beaucoup de votre participation.
Oui, si je peux rajouter, il existe, pour les médecins qui s'y intéressent à ce projet de recherche, le Consortium canadien pour l'investigation des cannabinoïdes, qui monte cette base de données pour le suivi des patients.
Et on peut y avoir accès de quelle façon?
Ils ont un site web, le Consortium canadien pour l'investigation des cannabinoïdes, ont un site web. Donc, ils ont une façade, une visibilité publique, si vous voulez, mais ils ont également des services pour les praticiens de la santé qui s'intéressent à la prescription de cannabinoïdes et le suivi des patients.
Oui. Alors, on pourra peut-être mettre un petit lien sur notre site à cet effet. Merci beaucoup.
C'est bien.
Au revoir.
Merci, au revoir.